Bonjour, vous êtes bien sur 106.3 FM, c'est RFPP. L'émission, c'est Zoom Écologie, une émission spéciale aujourd'hui qui commence un petit peu en retard, mais bon, elle commence, c'est déjà ça. Hein, on fera jamais du parfait de toute façon, mais voilà. Et donc aujourd'hui, une émission qui va traiter de la question des OGM pour savoir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, quoi qu'il arrive, etc., etc. Pour animer aujourd'hui, il y a Cyril et Rebecca.
Salut. Bonjour.
Bonsoir.
Et moi, la technique, Johan. Et nous aurons pour inviter deux invités pour traiter de la question. Un faucheur volontaire, Gérard Marc, et Christophe Noisette de InfoGM pour nous tenir informés de tout ça au téléphone. Donc déjà, un petit, vraiment désolé d'avoir commencé un petit peu en retard, mais bon, voilà. Il y a plein de choses à dire et c'est un petit peu ça qui nous a ralenti. On va vous asseoir sur place. Eh bien, je laisse la parole à Cyril et à Rebecca.
Il paraît qu'on commence par un apéro info sur Fukushima. Et puis comme il fait chaud, de parler de piscine. Mais bon, là, c'est une piscine qui est un peu particulière. C'est celle de Fukushima, la piscine du bâtiment numéro 4. Donc il y a de grosses inquiétudes sur l'état de la structure. Donc ce réacteur, c'était un réacteur qui était à l'arrêt. Par contre, c'est un réacteur qui stockait du combustible nucléaire usagé dans une piscine de refroidissement qui est en dehors de l'enceinte de confinement et qui est même à l'air libre puisque le bâtiment est en vrac. Donc l'inquiétude maintenant, c'est sur l'état de la structure et la résistance à des répliques, à des nouveaux tremblements de terre qui sont probables. Au niveau 7, il y a un gros risque que le bâtiment s'effondre complètement avec les quelque chose comme 200 et quelques tonnes de plutonium qui se trouvent dedans. Donc là, si ce scénario-là arrive, c'est une évacuation qui pourrait toucher Tokyo et donc une trentaine de millions d'habitants. Voilà. Mais je crois qu'on a le téléphone qui sonne et donc on va avoir InfoGM qui va nous faire un petit point sur les OGM en ce moment, quelques petits actus.
Est-ce que vous m'entendez, Christophe ? Christophe, est-ce que vous m'entendez ?
J'entends.
Voilà, impeccable. Eh bien, c'est parti.
Très bien.
Alors, donc nous venons d'aborder l'émission et on commençait par un petit peu exotique en discutant de Fukushima, ce qui a un petit lien avec les OGM, hein, tout ce qui est génétique. Et est-ce que vous... Pour introduire l'émission, est-ce que vous pouvez nous parler d'un peu ce qui se passe actuellement, l'actualité qui semble relativement importante sur la question?
Alors, tout à fait. L'actualité sur les OGM est toujours aussi vive. Hein. Ça n'a pas changé depuis au moins 15 ans. Parce que c'est un débat extrêmement important. C'est un débat qui concerne la culture, c'est un débat qui concerne la recherche, la gouvernance de la recherche. C'est un débat qui concerne notre alimentation, c'est un débat qui concerne aussi même la médecine, etc. Donc tous les jours apporte son lot de nouvelles brèves, de nouvelles informations. Concrètement, actuellement, c'est toujours le moratoire français qui est sur la sellette, puisque l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui est un peu le bras scientifique de la Commission européenne, vient de déclarer que le moratoire français n'était pas basé sur des arguments scientifiques. Donc après, je pourrais vous expliquer ce qu'il en est. Mais ça, c'est un point important, puisque ça pourrait remettre en cause le moratoire français. Pendant ce temps, les débats au niveau européen sont toujours aussi vifs pour savoir si un État pourra ou non autoriser un OGM. Donc ça reprend cette question du moratoire. Et au niveau international, il y a les questions de l'étiquetage, il y a les questions du commerce international, de savoir si étiqueter un OGM est une entrave à la liberté du commerce ou pas. Donc ça, c'est un débat qui est toujours important. Il y a aussi la question, là, par exemple, je viens de recevoir une information sur l'autorisation toujours imminente du saumon transgénique, un poisson qui pourrait débarquer dans les assiettes des Américains sous peu. Donc on voit que la manipulation génétique concerne donc les plantes, concerne les animaux, concerne de nombreuses choses, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on pourrait évoquer en détail.
On nous parle d'OGM, de super maïs, de tas de choses, d'essais illégaux, d'insectes génétiquement modifiés. Enfin, visiblement, ça a l'air très, très actif. Hein.
C'est comme... Tout à fait. Alors, bon, les essais illégaux, ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, une des stratégies utilisées par les firmes multinationales semencières, c'est la politique du fait accompli. Ça, ça s'est avéré tout au long de ces 15 années d'histoire des OGM. Et donc là, on se rend compte qu'en Suisse, par exemple, pousse du colza transgénique le long des voies ferrées, alors que le colza transgénique est interdit à la culture sur le territoire suisse. On se rend compte qu'en Italie, des chercheurs qui ont fait pousser des kiwis, des arbres fruitiers transgéniques, n'ont pas du tout respecté les procédures, n'ont pas arraché les arbres à la fin de l'expérimentation comme cela aurait dû être. Ils n'ont rien respecté, les protocoles sont complètement caducs, mais ces arbres continuent à pousser tranquillement dans la banlieue de Rome. Donc l'illégalité et les contaminations, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour condamner en quelque sorte les États à autoriser. Le cas le plus important, je pense que c'est le cas de l'Inde. L'Inde avait plutôt interdit les OGM sur son territoire, et face à une contamination extrêmement importante avec du coton transgénique, il s'est retrouvé obligé, en quelque sorte, d'autoriser ce coton-là parce qu'il ne pouvait plus faire face à la contamination qui prenait des proportions extrêmement importantes. Ça, c'était en 2002. Donc on se rend compte que ça n'a pas beaucoup bougé. La stratégie des firmes est la même. Quant au super maïs, bah oui, ça, c'est encore une autre stratégie. C'est que deux entreprises ont mis au point un nouveau maïs avec 6 transgènes, donc 2 pour tuer les insectes, donc des transgènes insecticides, et 4 pour tolérer des herbicides, donc pour tolérer des fortes doses d'herbicides. Et sous prétexte que ils sont super, ces maïs, ils demandent aux autorités américaines de diminuer les zones refuges. Alors qu'est-ce que c'est que les zones refuges? Les zones refuges, c'est une obligation légale de conserver une partie des champs en maïs non transgénique pour, en quelque sorte, éviter que les insectes acquièrent trop rapidement une résistance à l'insecticide. Et donc, eux, ils sont en train de proposer, en fait, une diminution de ces zones refuges. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une volonté très claire d'aller au-delà de ce que attendent un certain nombre de citoyens et de consommateurs, puisque à peu près tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion, etc., sont plutôt défavorables aux OGM, mais on colonise petit à petit par des petits sauts, comme ça, un petit peu de contamination, un petit peu de réduction des quelques protections qu'il existe malgré tout. Et par dose diluée, ça passe progressivement dans les législations. Donc c'est quelque chose qui n'est pas pour nous réjouir.
Et là, au niveau français, au niveau légal, le moratoire contre le maïs, le MON-810, qui était le seul OGM autorisé jusqu'ici, a été maintenu. Donc en théorie, légalement, il n'y a pas de culture légale en France cette année.
Il y a trois OGM qui sont autorisés à la culture dans l'Union européenne. Hein. Il n'y en a pas que un, il y en a trois. Il y a deux maïs, le maïs MON-810 et le maïs T25, dont on parle jamais puisqu'il n'est pas très intéressant, puisqu'il tolère un herbicide qui n'est pas autorisé sur maïs, cherchez l'erreur. Et il y a aussi une pomme de terre, la pomme de terre Amflora, qui est une pomme de terre qui a été modifiée pour produire un amidon plus intéressant pour l'industrie papetière. Mais en gros, ce qui intéresse l'Union européenne, c'est bien sûr le MON-810, qui est cultivé sur à peu près 100 000 hectares, avec en tête de ligne l'Espagne, qui à elle seule représente 90% des surfaces de maïs transgénique en Europe. Et ce maïs-là donc est interdit en France depuis 2008. Et depuis 2008, c'est une bataille juridique permanente, une bataille judiciaire même, on pourrait dire, puisque deux conseils d'État en Cour de justice de l'Union européenne, les adversaires et les partisans du moratoire s'acharnent à soit le faire tomber, soit à le maintenir. Bon, toujours est-il que là, il est maintenu. Le gouvernement précédent a décidé de renouveler le moratoire. Et donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de maïs transgénique cultivé. Je dis bien « il semblerait » puisque dans la sphère des partisans des OGM, chez les militants de la cause OGM, il y en a un certain nombre qui ont fait des déclarations comme quoi ils allaient faire fait rire Gérard, qui est avec nous, je pense, ils vont faire de la désobéissance civile. Voilà. Donc ils ont repris les termes des faucheurs pour mieux combattre leurs idées. Et en fait, la désobéissance civile, ils disent que le maïs apporte tellement d'avantages à tout le monde qu'il faut aller contre la loi et cultiver du maïs transgénique. Bon, je pense que c'est une minorité d'agriculteurs, que si jamais ils l'ont fait, il est possible que les faucheurs volontaires le trouvent et attaquent en justice ces champs et que ces champs seront donc fauchés. Mais voilà, l'état d'esprit est tel...
Je dirais même le plus important, c'est de les faucher, c'est pas tellement...
Là, étant donné que c'est interdit, il serait beaucoup plus intéressant de passer par la case gouvernement. Mmh. Parce que faire une action illégale contre une autre action illégale, ça va renvoyer dans l'opinion publique à peu près le même scénario. Hein. Ce sont tous les deux des voyous et on n'en parle pas. Si par contre, on arrive à montrer que ce sont eux qui ont désobéi et que par contre, ils ne peuvent pas défendre l'intérêt général, hein, alors l'État devra faire respecter la loi et devra les faire faucher. Donc c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, de faire de la détection et après de porter plainte pour les parcelles qui seraient cultivées illégalement. À mon avis, après, les faucheurs feront leur travail comme il se doit. Hein. Je ne vais pas leur dire ce qu'ils ont à faire, bien entendu.
En tout cas, il y a des résistances un peu partout contre les OGM, une forte résistance un peu partout dans le monde. Là, début avril, il y a contre Monsanto, il y a un rapport qui est sorti, le rapport Combat Monsanto, résistance populaire au pouvoir de l'industrie agroalimentaire à l'heure de l'économie verte et du changement climatique. Donc ça a été co-rédigé par la Via Campesina, la Fédération internationale des Amis de la Terre, et Combat Monsanto, qui est un site qui a été monté à l'occasion de la sortie du film de Marie-Monique Robin, publie le rapport. Pour José Riffaud de la Via Campesina, le récit de ces luttes démontre que l'opposition des mouvements sociaux et de la société civile a un impact réel sur l'introduction des OGM. Les législateurs ne peuvent plus ignorer les exigences de leurs concitoyens. Lors de la rédaction des textes réglementaires, les OGM et les pesticides dans l'alimentation et le secteur agricole. Ce n'est plus à Monsanto de faire la loi. Multiples témoignages et analyses contenus dans ce rapport ont pour objectif d'inspirer et d'unir les consommateurs, les militants, les différentes communautés pour lutter contre les abus de Monsanto et des autres firmes de biotechnologie dans le monde. Donc voilà, c'est consultable sur le site des Amis de la Terre, Via Campesina, et sur le site combatmonsanto.org. Ça fait un petit tour des résistances un peu partout dans le monde, sur des petits agriculteurs, des agriculteurs bio, des communautés locales, et tous les mouvements sociaux qui s'opposent à Monsanto un peu partout dans le monde. Voilà.
Bah, dernièrement, c'était donc il y a 4 jours maintenant, le 27 mai, il y a eu donc une tentative de fauchage d'un essai en champ de blé transgénique en Angleterre, au nord de Londres. Bon, j'ai dit une tentative parce que malgré 200 ou 400 militants, je ne sais plus exactement, il y avait autant de forces de l'ordre et les forces de l'ordre, dont une brigade à cheval, ont tout fait pour empêcher les militants d'atteindre le site. Mais bon, l'opération, quelque part, est réussie puisque ça a mis en lumière cet essai en champ. Et le blé est quand même une denrée extrêmement importante pour l'Europe, le Moyen-Orient et un certain nombre de pays. Et c'est une alimentation directement dédiée aux humains, ce qui serait un changement radical par rapport aux OGM actuellement cultivés. Parce que les OGM actuellement cultivés servent pour le textile, pour le coton bien entendu, mais servent surtout en fait via le maïs et via le soja, servent surtout en fait à nourrir le bétail européen et américain et chinois, hein, enfin le bétail, qui est sous traitement intensif, si je puis dire. Donc en fait, les OGM commercialisés actuellement, sont des OGM qui sont des OGM insecticides ou herbicides, donc des OGM qui correspondent à l'agriculture intensive et sont dédiés à l'élevage intensif. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau de l'agriculture productiviste. Ça, je pense qu'il est très important de rappeler ça, puisqu'on nous fait souvent des promesses, comme quoi bientôt, avec les OGM, on aura des riz qui seront enrichis en vitamine A, on aura des maniocs qui pousseront dans le désert, on aura, etc., etc. La réalité est beaucoup plus triste, beaucoup plus terne, puisqu'en fait, ça sert juste à gaver des porcs et des vaches qui sont dans des stabulations et qui ne voient jamais le jour. Voilà à quoi servent les OGM actuellement. Et après, avec toutes les conséquences sociales, économiques et environnementales. Mais il est bon de rappeler cet élément-là, je pense.
Qu'en est-il de l'étiquetage des OGM actuellement ? On entend beaucoup, mais visiblement, ce n'est pas encore quelque chose d'acté.
Alors, justement, c'est la conclusion de ce que je viens de dire. Ça tombe tout à fait bien. C'est qu'en fait, nous avons une loi sur l'étiquetage en Europe, mais cette loi permet d'exclure de l'étiquetage près de 80% des OGM cultivés. Parce que une vache nourrie avec des OGM, sa viande ou son lait ne sera pas étiquetée en tant que telle, en tant que OGM. C'est-à-dire qu'une vache qui mange des OGM, elle, on ne pourra pas savoir, quand on achète le lait ou la viande, la nature de son alimentation. Et donc, comme je disais que les OGM servent à nourrir le bétail, ne pas étiqueter les produits issus d'animaux nourris avec des OGM, c'est une façon d'exclure de l'étiquetage à peu près la plupart des OGM. En revanche, et ça c'est quand même un progrès notoire qu'il faut souligner, la France s'est dotée d'une réglementation assez stricte et assez précise sur l'étiquetage des produits sans OGM. Cette réglementation rentrera en vigueur le 1er juillet 2012, donc dans un mois, hein, un mois. Et cette réglementation permettra donc à des éleveurs qui ont fait le choix de nourrir leur bétail sans OGM de le signaler aux consommateurs. Et donc, en gros, par ricochet, par défaut, on pourra se dire que ceux qui n'étiquettent pas sans OGM seront des gens qui n'auront pas fait attention à l'alimentation de leur bétail. Et donc, on pourrait être à peu près sûr que l'alimentation de leur bétail sera à base de maïs ou de soja transgénique. Voilà. Donc, nous avons un nouvel outil maintenant pour le consommateur pour faire un choix éclairé et contester les cultures d'OGM dans les champs et pour contester l'arrivée des OGM dans l'alimentation des bestiaux en Europe. Donc ça, c'est un progrès notoire qu'il faut souligner. Voilà. Après, il y a trois autres pays qui ont ce type de réglementation. C'est l'Allemagne, c'est l'Autriche et c'est l'Italie. Donc on est 4 sur les 27 États membres à avoir mis en place une réglementation un peu plus stricte, un peu plus informative pour l'alimentation des animaux nourris aux OGM.
Ouais, c'était une bonne chose à rappeler, c'est que si la culture en France d'OGM est théoriquement pas légal. Par contre, l'importation marche très fort sur effectivement l'alimentation du bétail. Tu parlais de l'Inde et alors là, il y a encore je vais citer un article de Bastamag sur un hold-up des multinationales sur les semences paysannes. Des milliers de variétés de semences pourraient être privatisées en Inde, donc où Monsanto, Syngenta, la française Limagrain tentent de s'accaparer un bien commun, de quoi mettre en péril la souveraineté alimentaire de l'Inde, dont les variétés végétales ancestrales seraient brevetées et privatisées par les multinationales de biotechnologie. L'écologiste indienne Vandana Shiva sonne la contre-attaque. Donc ce serait 40 000 variétés de semences en Inde qui pourraient tomber entre les mains des multinationales. C'est ce qu'a révélé un article de l'édition indienne du Wall Street Journal du 18 mai. Dans un entretien, Swapan K. Data, chercheur en génie génétique et directeur général adjoint du Conseil indien de recherche agricole, propose d'offrir aux multinationales l'immense banque de gènes nationale, la contrepartie, bénéficier de l'expertise des multinationales en vue de développer des semences de rendement plus élevées pour les agriculteurs indiens. Ces semences améliorées sont celles présentées par les firmes de biotechnologie comme résistantes à la sécheresse et aux aléas climatiques. Donc l'article est long, mais ça explique tout ça sur le site Bastamag. Donc fondatrice de Navdanya, Association pour la conservation de la biodiversité et de la protection des droits des paysans, Vandana Shiva contribue avec plus de 10 000 paysans en Inde, au Pakistan, au Tibet, au Népal, au Bangladesh, à une banque de semences traditionnelles. Ces semences sont données aux paysans s'ils veulent revenir à une agriculture biologique, comme l'explique le réseau Semences Paysannes. C'est seulement en gardant la liberté de sélectionner leurs semences que les paysans peuvent choisir les modes de production et de transformation qu'ils souhaitent, et aussi se prémunir contre la contamination par des organismes génétiquement modifiés. Ces 40 000 variétés de plantes ne sont ni la propriété du docteur Data, ni même du docteur Data, c'est marrant, ni même du gouvernement, souligne l'écologiste indienne. Elles sont une propriété collective. En fondant Navdayan en Inde, Vandana Shiva propose une alternative non lucrative à la mainmise privée sur le vivant. En France aussi, les maisons de la semence se développent. Elles visent à protéger et à gérer les semences collectivement et localement et à garantir que ce patrimoine commun reste disponible. Et si les milliards d'euros aujourd'hui consacrés aux recherches en biotechnologie végétale étaient reconvertis pour financer massivement la conversion dynamique des variétés paysannes. Donc c'est ce que propose le réseau Semences Paysannes, une mesure qui ne va sûrement pas réjouir certains, Monsanto et ses consorts. Je vous invite à consulter l'article sur le site Bastamag.
Non, mais c'est sûr que... Ce que vous dites là, c'est la clé de voûte, en fait, je pense, du système semencier mondial, c'est les brevets. Sans brevets sur les variétés conventionnelles et transgéniques, l'empire des entreprises semencières s'écroulerait tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont cherché à tout prix à récolter des royalties et des brevets. Et on peut encore souligner donc une autre victoire par rapport à ça, qui est tombée au cours du mois de mai 2012. C'est qu'un tribunal brésilien a interdit à Monsanto le droit de récolter des royalties sur les variétés de semences transgéniques ressemées. Alors c'est une victoire un petit peu en deux parties. Hein. D'une part, c'est une victoire parce que ça permet, pour les paysans, ça leur permet donc de ne pas avoir à payer le géant Monsanto. Et donc peut-être que celui-là sera moins intéressé à développer de nouvelles variétés et à les mettre sur le marché. En revanche, le fait qu'il n'y ait plus de brevets et donc que la reproduction des semences transgéniques soit libre peut aussi en accélérer la diffusion. Donc, c'est la complexité de la question du brevet. D'un côté, elle permet à des entreprises de faire beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, elle limite en quelque sorte la dissémination des semences transgéniques sur les territoires. Donc, c'est pour montrer la complexité un peu du débat. Des fois, certaines personnes se demandent un peu ce qu'il faut soutenir. Mais je pense que d'un point de vue intellectuel et éthique, le brevet sur le vivant ne tient pas la route, puisqu'un brevet est là pour défendre une invention, et la nature n'est pas une invention de l'homme, ce n'est qu'une découverte, au mieux, une découverte faite par des milliers de paysans, comme vous le racontez avec l'histoire indienne, et cette découverte ne peut pas être brevetable en tant que telle, légalement, juridiquement. Voilà, donc il y a eu tout un système de, comment dire, toute une construction intellectuelle pour montrer que, en fait, c'était un peu une invention quelque part, etc., etc. Et là, je vais encore souligner un petit paradoxe, avant d'aller voir. C'est que, d'un côté, ils disent que les brevets sont légitimes et donc ils reconnaissent que c'est une invention, donc quelque chose de nouveau. Et par ailleurs, quand on leur dit oui, vous voyez, vous faites quelque chose de complètement anaturel, que la nature n'a jamais fait, la réponse des partisans des OGM est de dire que nenni, ça s'est toujours fait. Donc d'un côté, la transgénèse serait donc un processus naturel qui serait toujours fait, et d'un autre côté, faire un OGM est une invention. Donc on voit bien qu'ils cherchent à utiliser tout et son contraire dans un but de vendre leurs produits, hein, ce qui est normal pour une entreprise. A priori, on ne peut pas les condamner pour ça, parce que c'est le but des entreprises, c'est de vendre leurs marchandises. Mais ce paradoxe du brevet et de l'invention en dit long sur ce que c'est qu'un OGM, en fait, je pense.
Donc, Gérard est arrivé et installé, donc faucheur volontaire.
Oui, bonjour. Je suis vraiment navré d'être très, très, très...
Et adhérent de l'association OGM d'Angers.
Entre autres, oui. Depuis sa création en 96 et faucheur volontaire depuis 97.
On va remercier Christophe Noisette de nous avoir accordé une interview un petit peu plus longue que prévu. Merci beaucoup.
Bah, il peut peut-être rester en ligne, hein, on ne sait jamais. S'il veut échanger encore avec Gérard, il n'y a pas de problème. Hein.
On se connaît bien depuis une quinzaine d'années. Oui.
Ah ouais, on se connaît et on aura l'occasion de se revoir.
Je pense.
Rencontre que ce soit. Bah, je te souhaite une bonne émission, Gérard. Je vous souhaite
merci bien, mon ami.
À vous deux, une bonne émission et puis merci pour cette invitation.
Une question, tu viens au procès à Colmar?
Je ne pense pas, puisque je ne pense pas.
Dommage.
Ah, sans doute Eric, de mon collègue. Okay. Enfin, je ne sais pas. Encore, je ne sais pas encore l'organisation, comment ça se gère. Mais en tout cas, il faut être nombreux pour soutenir ces faucheurs et poser la question de la gouvernance de la recherche publique. Je pense que c'est très important de demander à la recherche publique de correspondre, de répondre à des critères très précis et que les inventions soient des inventions socialement utiles et non pas des choses qui vont au final atterrir dans les portefeuilles de brevets des multinationales. Ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises quand même dans l'histoire des OGM.
Merci Christophe.
Donc Christophe, on peut rappeler le site hein, quand même,
oui.
infogm.org, avec bah, plein d'infos. Là, y a notamment sur les deux super maïs tuant 6 ravageurs et résistants à 2 herbicides. Voilà, c'est du maïs costaud.
Du maïs qui tue bien.
Ouais, ouais.
Faut bien tuer des fois, c'est important. Hein. Faut que faire table rase, hein, c'est important, pour que ça soit bien propre. Non, je rigole, mais c'est un peu ça l'idée qu'on a derrière ça. C'est une vision un peu complètement folle de la nature, quoi, quelque part.
Bien.
Très bien. Bonne soirée à vous. Merci,
merci
bonne
beaucoup.
Ouais, c'est d'autant plus fou que ces maïs ont des gènes de résistance à des antibiotiques et que le premier moratoire qui datait de 98 en France était basé sur le fait justement du danger immédiat que représentait le gène de résistance aux antibiotiques, qui n'est qu'un gène marqueur, qui est là que pour qu'on sache si oui ou non la transgénèse a marché, et pas du tout pour un rôle actif. Donc c'est un gène dangereux qui est là uniquement pour faire plaisir aux sociétés qui font de la transgénèse et leur permettre de savoir si elles ont dépensé du pognon, je dirais à bon escient ou pas. Voilà. Donc c'est catastrophique. Et une partie de ces gènes de résistance aux antibiotiques le sont sur des gènes, sur des antibiotiques qui servent dans des médicaments. Il faut le savoir, de maladies très graves, mais en particulier, c'est pas très grave. Vous voyez, vous allez voir, je suis très radical. C'est pas très grave parce que c'est pour les Africains, donc on s'en fout. C'est la malaria, c'est la fièvre jaune. Donc c'est vrai que ces antibiotiques-là, c'est pour les pauvres. Donc c'est vrai que ça gêne pas trop les gens comme nous, qui sommes du Nord, et qui fabriquons des chimères qui vont mettre en danger les populations du Sud parce qu'elles deviendront non résistantes, parce que les microbes deviendront résistants à ces antibiotiques et donc on ne pourra plus soigner ces personnes. Et ça, c'est catastrophique. Ce sont des millions de morts dont on parle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je remarque que Christophe, que j'aime beaucoup, quand il m'a quitté, m'a dit de fait, c'est bon vent pour la science. Et moi, je dis oui, bon vent pour la science, mais à partir du moment où elle est gérée et où elle ne génère que ce qui peut être un avantage sans aucun désavantage. À partir du moment où on aurait fabriqué une pénicilline qui en même temps dégageait du gaz moutarde, par exemple, je pense que ça n'aurait eu aucun intérêt. Et donc à l'époque, c'est vrai que les Fleming et tous ces gens-là faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a une raison principale, et on en parlera forcément, puisque je suis inculpé dans un nouveau procès, dans un arrachage de vignes à Colmar, là, sur l'INRA, où l'INRA véritablement faisait n'importe quoi. C'est-à-dire que l'INRA, ce qui comptait, c'était de son auto-existence. L'INRA existe parfois, je dis bien parfois, parce qu'elle travaille sur des projets qui lui permettent d'exister parce qu'ils sont financés. Pas forcément que par l'État et par ceux qui sont susceptibles d'acheter les produits qui sont générés par l'INRA. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que ça veut
Ça veut dire que l'INRA n'est plus complètement neutre. Et quand elle fait des médicaments, c'est souvent au bénéfice de ces multinationales, que ce soit Monsanto, Syngenta, Pioneer et autres, sans se rendre compte, que, ou en s'en rendant compte, mais en s'en foutant. Vous savez, l'histoire de Servier. L'histoire Servier, c'est tous les jours avec les scientifiques. Tous les jours avec les laboratoires, comme l'INRA. Parce que de fait, aujourd'hui, qui paye ? Eh bien, ce sont les... Je dirais, c'est la finance. Vous savez, comme on disait depuis quelque temps, c'est la finance qui paye. Et donc, il faut que ça rentabilise. Et ça ne rentabilisera que si on peut s'en servir pour des choses qui sont définies comme étant un bénéfice passant par les produits des multinationales. C'est grave, c'est très grave. Et c'est pour ça que nous, les faucheurs, nous sommes de plus en plus radicaux. Nous sommes du moins certains à être de plus en plus radicaux et à ne plus accepter que... c'est un mot de Christian Vélo, qui est un chercheur extraordinaire qui travaille sur les OGM toute l'année depuis 20 ans.
Qui a la tête dans le guidon, comme il dit lui-même.
Qui est dans la tête dans le guidon et qui dit toujours que les essais des faucheurs ne doivent pas se faire dans les champs parce que les champs ne doivent pas servir de paillasse aux chercheurs fous, vous savez, au docteur Folamour. C'est ça la vérité.
C'est sûr que c'est une voie dans le monde scientifique qui est un peu... qui va un peu à contre-courant des intérêts du moment.
Oh non, il y en a pas mal de chercheurs comme lui, comme Serralini, Gouillon, enfin Berland. Il y en a plein qui sont des gens, des chercheurs honnêtes, qui savent très bien qu'ils travaillent sur des produits qui sont parfois mal maîtrisés, c'est tout, qui sont dangereux parce que mal maîtrisés, et que donc les chercheurs, s'ils sont honnêtes, ils l'admettent et prennent d'autres précautions et donc vont chercher à faire des études beaucoup plus longues sur ces produits avant la mise sur le marché. Mais aujourd'hui, le problème, on parle des OGM.
Il y a pourtant déjà quand même des études qui ont montré des nocivités sur les OGM.
Bien sûr.
Notamment sur tout ce qui est ces maïs qui tuent des insectes. Elles en tuent peut-être des nuisibles, c'est le but recherché, mais peut-être aussi des utiles comme les abeilles, les bourdons, tous les insectes pollinisateurs. Après, c'est un peu toujours la méthode des pesticides, parce que là, c'est plus des pesticides qui sont mis directement sur les plantes, mais c'est des pesticides qu'on va faire créer par la plante elle-même.
C'est même plus grave. Même beaucoup plus grave. C'est-à-dire que vous prenez un maïs. Un maïs, au début, c'est une graine à peu près, je ne sais pas, 10 ou 100 000 cellules. Et quand le maïs est adulte, c'est à peu près 1 milliard de cellules. Eh bien, ce milliard de cellules qu'ont fait Berland, Gouillon et les autres, ce milliard de cellules, prises l'une à côté de l'autre, vont toutes fabriquer toute leur durée de vie. C'est-à-dire, même quand elles sont fauchées, elles continuent à fabriquer un pesticide, un insecticide. C'est extrêmement grave. Et ça veut dire que de la racine jusqu'à la fleur, elles vont fabriquer un insecticide. Et malheureusement, ça ne peut pas être géré. Et c'est la raison pour laquelle vous avez autant, je dirais, de ravages chez les insectes. Mais si vous regardez ce que dit Claude Bourguignon, qui est le plus grand microbiologiste des sols du monde, qui est connu partout, et Claude Bourguignon le dit, les sols, après le passage des OGM insecticides, sont nus. C'est-à-dire que toute la microbiologie des sols, les molécules, les vers, tout ça, meurt. Il n'y a plus rien. Il est allé au nom du gouvernement français, c'était Chirac à l'époque, il a envoyé en Argentine, je crois, faire une étude sur les sols du nord de l'Argentine, où il y avait du soja, principalement OGM, dans 5 États. Et il s'est aperçu que le sol était complètement mort. Et c'est pour ça que les banques qui finançaient ces projets, en grande partie, ont quitté l'Argentine pour aller maintenant au Paraguay ou aller au Costa Rica, Paraguay ou Brésil, où ils déforestent pour replanter, pour ressemer des OGM. Et ils ont bousillé d'un côté, ils vont ailleurs. Et souvent, ce sont des banques européennes, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, européennes ou filiales de grosses banques américaines. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, ce qui est grave, c'est que l'OGM intellectuellement parlant au départ, à partir du moment où vous le confinez dans un laboratoire de 20 mètres carrés, vous avez 5 mecs qui risquent leur peau, on n'en a rien à foutre, puisque c'est eux qui étudient. Je le dis moi en tant que Gérard Lipskin, je me fous complètement de ce qui leur arrive. Si jamais un OGM, bon, passe dans le sang, dans le truc, le machin, le type a un problème, et c'est son problème. Mmh. Par contre, à partir du moment où lui, il estime qu'il peut le passer au service commercial, mmh, et que donc il peut y avoir des mises en culture de cet OGM, sans qu'il y aurait eu des rapports et des études de toxicité véritablement honnêtes. Je ne sais pas si Christophe l'a dit, mais pendant 20 ans ou pendant 15 ans, il y a eu deux organismes en France qui géraient l'OGM. La CGB, sur 18 membres, vous en aviez 15, un peu, non, pas 15, c'était 12 sur 18, qui avaient un lien de subordination financière directe avec des faiseurs d'OGM. Il faut le savoir, et dont une qu'on connaît bien, c'est Madame Daté, parce que Madame Daté, il faut quand même le savoir, elle est témoin souvent pour Monsanto dans nos procès. Moi, je l'ai eu 3-4 fois dans des procès, et elle se fait passer pour une scientifique honnête et tout, alors qu'on sait que, par exemple, son mari travaille dans un laboratoire qui fait des OGM et qu'elle-même avait un lien de subordination avec des sociétés qui faisaient des OGM. Ça, c'est la CGB. Et puis, vous avez également l'AFSA. Et l'AFSA, c'était pour la santé. Et là, c'est pareil. Tout un tas de membres de l'ASFA qui sont soi-disant des gens honnêtes et neutres, qui vont étudier honnêtement le problème, eh bien, tout un tas avaient des liens directs avec les faiseurs d'OGM. Et il y a pire, c'est Bruxelles. Bruxelles, d'ailleurs, je vais vous dire, il y a un truc marrant, je ne sais pas si Christophe vous en a parlé, le truc le plus invraisemblable. Coluche, il est en train de actuellement rigoler avec ses godasses dans son tombeau parce que l'EFSA, qui est la version européenne de l'AFSA, qui gère les problèmes de santé, entre autres, l'EFSA à Bruxelles a décidé que le miel contaminé par un OGM est impropre à la consommation. Je suis apiculteur, maintenant, nouveau d'ailleurs, mais je suis apiculteur. Mmh. Ce qui veut dire que logiquement, il va falloir que je regarde autour de chez moi s'il n'y a pas un OGM qui est semé, entre autres actuellement.
Légalement ou pas d'ailleurs. Bien sûr,
voilà. Du colza actuellement, parce que mes voisins sont en train de semer, ils n'en faisaient jamais du colza, et c'est peut-être du Clearfield, on n'en sait rien, qui est un mutagène, une plante mutagène, donc un OGM. Eh bien, ça sera à moi de regarder si vraiment le colza qui va semer ou le maïs est bon, le Monsanto 810, entre autres.
Sur toute la distance du vol,
susceptible
du vol des abeilles. Bon, ça fait quand même...
Faut que vous sachiez que le colza le plus proche de chez moi était pendant des années à 6 km de chez moi. Mm-hmm. Moi, je suis dans la vallée de l'Eure et le colza était en haut, sur les plateaux.
À portée d'abeilles,
À portée d'abeilles. Eh bien, il faut savoir que j'avais des milliers de repousses de colza chez moi. Il n'y en a pas dans la vallée de l'Eure, il n'y en avait pas. C'est comme ça. Tout d'un coup, il y en a eu. Et parce que le vent a porté... C'est Gouillon qui disait qu'une graine de colza, c'est 1/63 d'une masse, en moyenne, d'une graine de maïs. À la masse. Ce qui veut dire que c'est hyper léger. Et vous prenez le vent, il vous le balance à des kilomètres et des kilomètres. C'est une catastrophe. Et c'est pareil pour toutes les plantes OGM. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et que les Français, quand ils vont voter, j'aurais aimé, moi, qu'il y ait dans toutes les émissions, vous savez, toutes les émissions de radio ou en téléphone pour poser des questions. Moi, j'aurais aimé que chez Mermet et autres, les Français, au lieu de poser des questions sur ce qui se passe au Pérou, sur ce qui se passe en Chine, posent un peu des questions sur ce qui se passe chez nous. Le gouvernement a déposer une clause de sauvegarde sur le Monsanto 810 avec un mois de retard, faut le savoir, avec un mois de retard, Christophe le sait, et je dois dire Éric Meunier aussi d'InfoGM le savent. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire début février, ils l'ont fait à la fin mars, vers la mi-mai.
Ce qui laissait déjà le temps de semer.
Voilà, et on sait que Monsanto a livré du Monsanto 810, qui soi-disant est interdit en France. Alors, il y en a combien ? 300 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, 2000, on ne sait pas. Donc là, on a des équipes qui, dans toute la France, sont en train de se balader, nous les faucheurs, pour chercher ce maïs Monsanto 810, qui est dangereux, qui est un...
Je crois qu'il y a des, moyens de, détection, non ? Il
bien
semble
sûr.
Qu'au niveau de, Greenpeace, ils avaient des moyens de faire des tests même.
Oui, c'est pas Greenpeace. Hein. Enfin, c'est aussi Greenpeace qui nous le vendait pendant des années. Mais c'est,
enfin, c'est par là que je l'ai, c'est par là que j'ai vu ça, mais qui avait
c'est, c'est Bioforme, c'est un laboratoire.
Qui avait un test qui existait pour.
Voilà, c'est Bioforme qui fabrique un test, un test chimique, vous savez, comme les écoliers qui cherchent une base ou un acide dans un produit, ils vont balancer une languette avec un détecteur chimique dans ce produit pour savoir si la languette elle devient rouge ou bleue ou verte. Donc ça, on saura qu'il y a. Là, c'est une enzyme. L'enzyme, la plante transgénique va avoir ces cellules qui sont codées pour faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, par une enzyme. Et cette enzyme, on la recherche. Et Bioford a fait un test, c'est un petit sac transparent dans lequel vous avez un liquide révélateur chimique qui va révéler cette enzyme. Et vous allez dans les champs, vous prenez des feuilles, vous les découpez, vous les broyez, vous les foutez dans le sac. Et là, au bout de... Vous broyez bien et la pâte qui est dedans, vous allez mettre la languette. C'est comme les diabétiques. Vous allez mettre la languette dedans et vous allez voir si vous avez une grande barre, il n'y a pas d'OGM. Il n'y a pas l'enzyme, donc ce n'est pas un OGM. Si vous en avez deux, là, par contre, il y a des chances que ça soit un OGM. Donc, on la refait deux fois et puis on la refait trois fois. Et la quatrième fois, on la fait avec un huissier. Et ensuite, bon, ben... On communique ensemble et on va faucher. Mais on ne fauche pas, je dirais, comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de lien intellectuel et intelligent là-dedans. Non, on va prévenir les paysans. D'abord, on va prévenir les gendarmes. À Colmar, entre autres, puisque le prochain procès, c'est Colmar. Et donc, il y avait 60 faucheurs qui sont entrés en découpant le grillage autour de l'essai. On a découpé le grillage, on est entrés. On a refermé le grillage pour ne pas pouvoir sortir, qu'on ne puisse pas nous faire sortir du champ. Et là, on a appelé les flics, on a appelé les gendarmes. Là, c'était la police de Colmar. On a appelé l'INRA, on a appelé les journalistes pour que tout le monde sache qu'on était dedans et qu'on allait faucher parce que nous voulions absolument qu'il y ait communication sur notre acte.
Et tout le monde l'a fait à visage découvert.
À visage découvert, absolument. Et quand les policiers sont venus, d'ailleurs, ça a été un moment exceptionnel, Colmar. Parce que les policiers sont venus, ils ont monopolisé un quart de la ville qui est venu nous chercher, on était 60. Et là, on a chanté dans toute la ville pour que tout le monde sache qu'il se passait quelque chose. Ils nous ont amenés au commissariat central. Là, je dois dire que la Confédération paysanne du coin nous avait prévu un petit encas exceptionnel à l'entrée du commissariat. On bouffait mieux que les policiers. D'ailleurs, les policiers nous regardaient avec envie. On les a invités à manger avec nous. Et ça a été un moment formidable, de lien avec les populations du coin.
Gérard, est-ce que tu peux nous parler du fauchage récent ?
Le fauchage récent, alors je suis allé en Angleterre 4 jours, oui. Je viens d'Angleterre, je suis arrivé hier. Et en Angleterre, ils sont tellement fous qu'après l'histoire, Pushtai, vous savez, Pushtai était un savant anglais, prix Nobel, qui travaillait au Rowett Institute à Aberdeen. Et cet homme a fait le premier rapport de toxicité sur un OGM. À l'époque, c'était une pomme de terre transgénique. Et il a dit, il y a danger pour les rats. Donc, il y a forcément danger pour les humains. Et il l'a écrit dans le Lancet. Le Lancet, c'est la bible des médecins. Tout ce qui est médical passe par le Lancet. Nature, c'est pour ce qui est environnemental. Et Lancet, c'est médical. Ça a été accepté par le comité de lecture du Lancet. Ce qui est extraordinaire. Et là, eh bien, il a fait son article. 8 jours après, il y a eu ordre du gouvernement Blair de casser l'article. Interdiction de continuer à livrer cet article par le Lancet. Pushtai a été viré du Rowett Institute. Sa femme a été virée du Rowett Institute, sans préavis, comme ça, virée, parce qu'ils avaient communiqué sur quelque chose qui était dangereux pour des travaux qui étaient effectués par le Rowett Institute. Ben actuellement, vous avez la même chose. Ce n'est pas la pomme de terre, c'est le blé. Vous savez que les Américains ont interdit le blé transgénique. Pourquoi ? parce que les syndicats américains de cultivateurs se sont aperçus que si jamais on balance du blé transgénique dans la nature, le blé américain est plus vendable, puisque c'est certainement le produit qui sert de base au plus grand nombre de différentes nourritures. Donc ça veut dire que si jamais il y a du blé transgénique et qu'il n'y a pas d'acheteur transformateur pour l'acheter parce qu'il est transgénique, c'est une catastrophe pour l'agriculture américaine. Alors, comme les fabricants de nourriture animale qui achètent du soja s'en foutent, c'est pour l'animal, et aller lutter, les animaux ils gueulent pas, dans leur box, les vaches elles vont pas dire je veux pas de maïs transgénique, je veux pas de soja transgénique. Mais par contre le blé c'est l'homme qui le bouffe. Et là, il y a eu un véritable... aux États-Unis, il y a eu un gros conflit, en particulier dans les États où il y avait des gros producteurs de blé. Donc, ils ont interdit, l'UEDSA a interdit le blé transgénique aux USA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais qui vont souvent... là, je suis méchant pour les Anglais, pas pour ceux qui nous ont aidés pendant le fauchage, parce qu'ils ont été extra, les jeunes, ils sont des étudiants en général, ils ont pris des risques avec nous, et ils ont été géniaux. Mais... je dois dire que les hommes d'affaires anglais, les financiers anglais, ils vont souvent chercher les projets dans les poubelles des autres pays pour pouvoir les développer, parce qu'il y a du fric à faire. Et là, ils ont fait un essai de blé transgénique, à côté de Londres, à Saint-Alban, à côté de Saint-Alban. Et là, donc, on l'a su, les Anglais sont allés faire une première tentative de fauchage. Comme ça n'avait pas marché, il y a eu deux personnes en tôle, et ils sont venus nous chercher en France, vu notre réputation, et donc, pour qu'on les aide, non pas uniquement, ils sont tout à fait capables de faucher et de faire ce qu'il faut faire, mais pour qu'on apporte, je dirais, notre analyse, pour qu'on apporte, je dirais, notre capacité ancienne, je dirais, à dire ce qu'il faut faire. Et donc, on est allé à Londres pendant 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on était donc dans un grand parc. Il y a 200 personnes qui nous ont rejoints. Nous, on était 18 Français. Il y avait à peu près une soixantaine de faucheurs anglais. Hein, et à peu près 200 personnes qui étaient là. Et donc, il y avait à peu près 400 flics, je ne sais pas, environ, qui barraient tous les chemins pour amener au champ où il y avait l'essai de blé transgénique. Et à un moment, comme on a vu qu'on n'avançait pas, on était en train de pique-niquer confortablement, il y avait les orchestres anglais merveilleux de rock qui étaient là, mais on n'avançait pas. On a décidé de se donner la main avec les faucheurs anglais, et on est avancé sur 3 rangs. On est avancé vers le chemin qui menait à ce champ de blé transgénique. Et là, bon, on s'est fait vertement renvoyer à nos foyers, je dirais. On n'a pas pu aller jusqu'au champ. C'est le dernier. Mais il n'empêche que tous les grands journaux anglais, je me suis tellement pressé, je voulais vous amener l'Observeur, j'ai tous les journaux qui en ont parlé, vous avez l'Observeur, vous avez le Times, enfin il y a 5-6 journaux, il y a toutes les télés anglaises en ont parlé, les radios anglaises, BBC et autres en ont parlé, en Angleterre. Et donc ça a été un grand succès, je dirais, au niveau de la communication, et c'est ce que nous recherchions absolument. Par contre, c'est vrai que la police anglaise, qui est très intelligente, par un juge, avait fait une notification aux Anglais qui avaient construit de toutes pièces cette action. Ils leur ont notifié que si jamais ils devaient aller jusqu'au bout, jusqu'au fauchage, la police viendrait dans les fermes et mettrait ces fermes, c'était des paysans, en vente. Et c'est la raison pour laquelle ces faucheurs anglais nous ont demandé prudence, nous ont demandé de ne pas aller jusqu'à la confrontation, ce que nous avons fait, jusqu'à la bagarre. D'abord parce que nous sommes non-violents, les faucheurs. Ça, c'est un principe de base. Hein. Dans la charte des faucheurs, il y a la charte de la non-violence. Et deuxièmement, parce qu'il y a des Anglais qui prenaient des risques énormes, entre autres pour leur boulot, pour leur outil de travail. Ça, c'est la dernière qu'on a faite, c'était ce week-end.
Et on a parlé de Colmar tout à l'heure, donc l'arrachage des vignes. un procès. Tu peux nous rappeler les dernières...
C'est simple. En première instance, on a été condamné à 58 000 euros de dommages et intérêts pour l'INRA qu'on a payé tout de suite. C'est vrai que ce n'était pas énorme. C'est-à-dire que on sent que le procureur, il était mal dans sa peau, il était mal dans ses godasses, parce que si vraiment ce qu'on avait fait était grave, il aurait accepté le million d'euros que demandait l'INRA. Il a donné 58 000 euros, on a payé tout de suite. Et on a eu 2 mois de prison avec sursis, et les récidivistes ont eu... C'est 200 jours amende à, je crois, 3 euros par jour ou 6 euros par jour d'amende. C'est-à-dire pendant 200 jours, ils doivent payer tous les jours ces 6 euros à la place des 200 jours de prison. Et chose assez étonnante d'ailleurs, c'est qu'une partie des multirécidivistes n'avaient pas encore sur leur casier judiciaire les précédentes actions sur lesquelles ils avaient été condamnés, dont moi. Donc, je n'étais pas considéré comme un récidiviste. Donc, j'ai participé au paiement des dommages et intérêts, et on n'a pas eu d'amende. Le procureur n'a pas demandé d'amende. Par contre, il a fait appel. L'appel, c'est le 20 et 21 juin à Colmar. Et là, c'est vrai qu'un certain nombre de faits se sont faits. Je ne peux pas en parler trop, parce que les avocats nous ont demandé d'être assez discrets quand même, jusqu'à ce qu'on donne les conclusions au tribunal, les conclusions de nos avocats au tribunal. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas la première fois que l'INRA prenait des risques inconsidérés sur un essai dans le milieu agricole. C'est déjà arrivé sur les pommiers. Dans la vallée du Rhône, il y a quelques années, l'INRA a fait un essai d'un pommier transgénique qui était résistant au chakra. Le chakra, c'est un insecte ravageur du pommier qui donne des larves qui vont bouffer les racines. Bon. Eh bien, chose extraordinaire, il faut savoir qu'ils ont balancé la maladie dans une région où cette maladie n'existait pas. Et les producteurs de pommiers, il y a eu des centaines de gens ruinés, il faut quand même le savoir. On n'en parle pas parce que la presse, trop souvent la presse écrite, est quand même entre les mains de ce qu'on appelle la finance internationale. Bolloré, Rothschild et autres, vous savez, ça c'est évident. Ces gens-là,
en France, on a Lagardère, Dassault.
On a Lagardère, Dassault et autres, bien sûr. Et donc, on n'en parle pas trop. Mais Bouygues. Aujourd'hui, vous avez toujours ce procès des...
Bouygues.
Bouygues, bien sûr. On a toujours ce procès qui existe. Et nous avons comme avocats, les deux avocats, qui se sont occupés de cette affaire de pommier à qui on a filé le chakra alors qu'il n'existait pas dans la vallée du Rhône. Voilà. Et c'est deux excellents avocats, Guillaume Tamarel et... j'ai honte, le deuxième, je l'adore aussi. Ils sont sympas tous les deux. Ce sont donc deux avocats, un de Montpellier, un de Rennes, je crois, qui nous défendent pour ce procès. Et là... Simplement le procureur demande le double. C'est-à-dire qu'il demande à ce que... Je crois que c'est 6 mois de prison avec sursis et avec tout un tas de trucs, alors que nous, simplement, on demande la relaxe.
Ok, donc c'est...
Le 20 et 21 juin à Colmar, et on demande au maximum de gens de venir nous soutenir. C'est quand même important, parce que l'Alsace est un pays particulier où... Les gens sont, disons, pas particulièrement de gauche, à part quelques élus. Donc, si on est soutenu par des milliers de personnes, c'est vrai que les gens se poseront la question « Ah oui, mais pourquoi ?» Et ce pourquoi, je ne suis pas sûr que tout le monde là-bas se la pose. Il faut quand même savoir que parmi les 58 faucheurs, nous ne sommes plus que 54 là, qui faisons appel, il y a quand même des vignerons de très grande classe, qui sont inculpés et qui font un vin dont des grands crus. C'est quand même important parce qu'ils ne voulaient pas être contaminés éventuellement par une vigne transgénique qui allait se balader chez eux. Parce que même si l'INRA dit qu'elle n'a pas breveté ce porte-vigne transgénique, même si elle dit qu'elle ne l'a pas breveté, il y a quand même quelqu'un qui est un ancien directeur de l'INRA qui est parti aux États-Unis pour la breveter. Il était quand même un ancien de l'INRA. Il est allé là-bas à quel nom ? Allez le savoir. Personne au monde ne peut le savoir. parce qu'on peut très bien breveter quelque chose aux États-Unis et mettre des sociétés écrans qui seront à travers des, je dirais, des contrats de blanc-seing qui vont être les véritables porteurs du brevet. Et qui dit que ce n'est pas l'INRA qui est derrière ça? Personne au monde ne peut nous le dire. Parce qu'on n'en sait rien et qu'il n'y a qu'eux qui le savent. Et c'est là que je dis que ça, ce n'est pas net du tout. C'est pour ça que nous, on demande la relaxe sur le fond et sur la forme, pure et simple.
Ok, ben on va suivre ça. Et puis, je pense que les émissions Zoom Écologie sur les autres jeudis suivront aussi le procès.
D'accord. Ben moi, je dis bonjour à tous les faucheurs qu'on va bientôt rencontrer, parce que demain, vous savez qu'il y a un grand salon qui s'appelle Naturali. C'est important. Un salon qui dure 4 jours. À la porte de Versailles, c'est le salon de l'écologie et de la bio. Et donc, les faucheurs ont un stand à ce salon. C'est important. Et on y retrouve également Greenpeace, on y retrouve également Sea Shepherd. On va y retrouver toutes les associations un peu radicales sur entre autres l'écologie, l'environnement et la défense de l'environnement.
À ce propos, justement, de Sea Shepherd et un peu dans la même mouvance que les faucheurs, Paul Watson est en ce moment en prison, enfin en surveillance en Allemagne, dans l'attente d'une future extradition au Costa Rica. Et il est temps de se bouger pour justement soutenir et éviter que Paul Watson soit extradé en Costa Rica où il n'a aucune chance d'avoir une justice juste. Voilà, donc il n'y a pas que les faucheurs qui se prennent des coups en ce moment. Et on peut dire qu'il y a, un petit peu comme conclusion de cette émission de ce soir, qu'il y a véritablement je voudrais pas dire volonté, je mettrais ça entre guillemets, mais un certain courant pour justement rendre moins dynamique tout ce qui est environnement, défense de l'environnement, bloquer tous ceux qui empêchent les financiers de tourner en rond, notamment. On va peut-être faire une petite pause musicale, et puis dans l'attente de l'émission suivante, on va continuer pour discuter un petit peu. Voilà.
Bien, je vous remercie.
Savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable. Sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il n'y aura que du soja OGM durable pour faire le biocarburant des 4x4 durables.
Il s'agit de MC Duval, blabla. Et ben voilà, nous allons laisser l'antenne à l'émission qui suit. Juste reprendre le micro pour vous dire au revoir et à la prochaine. Donc moi la technique, Johan.
Eh ben salut, merci Gérard.
Moi l'invité, Gérard, l'invité en retard.
Voilà, et ben on va écouter Musique Antilles maintenant.
Et la rediffusion c'est quand?
L'émission sera rediffusée mardi matin à 8h.
Encore merci Gérard et à bientôt.
À bientôt.
Plutôt investir dans les tasers durables, et les pauvres on les mettra dans des prisons durables.
Je me mets sans toi. Tu me manques et je déprime sans toi. Sans le son de ta voix, ça me tente de te suivre où tu vas. J'ai bien du mal sans toi. J'avais déjà perdu l'habitude de me sentir envahie.